Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture.
De la spiritualité. Vous écoutez à vue d'esprit, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à vous.
À vue d'esprit. Fabien Unenberger.
Raphaël Paquier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, on a vu cette semaine avec vous le serpent, la colombe, l'aigle, les poissons, l'âne, le bœuf et bien d'autres animaux du bestiaire de la Bible permettent, on va dire, un regard nouveau, un regard symbolique sur le psychisme humain, sur la réalité de la vie humaine. Des animaux qui, soit individuellement, soit pris ensemble, sont porteurs d'un message spirituel. Enfin, en tout cas, c'est la thèse que défend et qu'illustre votre invité de cette semaine, l'auteur de ce bestiaire, Jean-François Fauger.
Parfaitement, porteur de sens, riche en symboles, mais d'abord riche en enseignements zoologiques, puisque le livre est aussi écrit par un zoologue, Jean-Pierre Durand. Et tous les animaux de la Bible nous enseignent d'une manière sensible, d'une manière symbolique, le mystère de la vie et aussi le secret de l'humanité. D'où les approches et la passion de notre invité, Jean-François Fauger, qui aujourd'hui nous partage son coup de cœur, vraiment son coup de cœur pour le cerf. Le cerf, un animal souvent représenté dans l'iconographie et la sculpture religieuse. Le cerf qui se laisse découvrir en particulier au livre des Cantiques des Cantiques.
Un cerf, c'est une bête d'abord très puissante et il a plusieurs états qu'on voit à travers la transformation de ses bois, qu'il perd régulièrement, qui ne sont pas du tout comme les cornes. C'est quelque chose de très extraordinaire. Alors, il faudrait que nous regardions effectivement la notice zoologique pour bien comprendre ce qu'est un cerf. Pour la zoologie, le cerf est cervus elaphus. Un pléonasme latino-grec qu'on traduit en langage vernaculaire, en langage courant, par cerf noble. Noble en lui-même, mais aussi parce qu'il était réservé aux nobles, par exemple dans les chasses, etc. Quand naît le cerf, il porte le nom de Fan. Gracieux, attendrissant, il est alors tacheté pour se fondre dans le milieu du sous-bois où il a vu le jour. Et effectivement, c'est un animal, on fonde devant un fan. Au contraire de la panthère, parce que la panthère aussi est tachetée, qui a des taches sombres, lui, il porte des taches claires, des taches de lumière. Piqueté et rayé de clair sur fond roussâtre, il est quasiment invisible dans les forêts de feuillus. Et il devient très vite agile, comme le bien-aimé du cantique, dont on nous dit qu'il franchit les montagnes. Puis, suivant qu'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, les carrières divergent. Pour la femelle, c'est tout simple, elle est bichette, puis biche. C'est le vocabulaire habituel, mais qui va nous servir. Gracieuse et aérienne, on lui prête surtout l'intérêt d'assumer pleinement le rôle de Nephtali, qui est une biche rapide, c'est une des tribus d'Israël, dont l'emblème est la biche, et qui donne de beaux fans. Alors, évidemment, ce que symbolise le cerf va être capital pour la tribu de Nephtali. Quand elle ne peut plus le faire, donc elle a perdu la capacité de mettre à bas des petits fans, elle est bréhaigne. Pour le mâle, c'est plus compliqué. Au premier automne, il change de poil. Il est tout maigre, car le haut de la tête commence à travailler. Le cerf, tout est dans la tête. C'est le hare, le pauvre hare, de piètre apparence. Dit-on, tant il est triste. Et à son premier anniversaire, donc première année de l'existence du cerf, il y a des dagues qui apparaissent. Puis le daguet devient deuxième, troisième et quatrième tête. Donc on compte en tête. Les dagues se ramifient et ensuite l'animal devient un dicore jeûnement, dans le langage ancien. Arrive enfin le moment où il est déclaré noble, donc dans la plénitude de son être, parce qu'il est dicore. Pourquoi 10? Alors 10 est un nombre très important dans toute l'Écriture sainte. Parce qu'il y a 10 plaies d'Égypte, il y a 10 commandements, etc., etc. Comptons bien. À ce moment, le cerf de l'andouiller de massacre à l'empaumure a sur la tête 14 épieux. C'est le chandelier, un chandelier double, composé de deux ramures de 7 épois. Donc deux chandeliers à un tronc, qu'on dit la perche, et 6 épois. Pourquoi ? Parce que, comme le chandelier du temple, est un chandelier à 6 branches, et non pas à 7, comme on dit habituellement. Ce que dit l'Écriture. Le chandelier à 6 branches est comme un arbre. Et au centre, évidemment, dans un arbre, il y a des branches, mais il y a le tronc. Eh bien, dans le chandelier, il y a un tronc et 6 branches. Et donc, c'est jamais un chandelier à 7 branches. Ça n'existe pas, ça. Alors, le chandelier, un chandelier double, composé de 2 ramures et de 7 épois, mais il y a là aussi un centre. De la meule, formée d'un socle de pierrure, à l'épois lisse de la tronchure, oui, c'est un vocabulaire très spécial, chaque millimètre du bois du cerf a un nom. Pour être savant, il est impératif de savoir que le mérin est garni de perlures entre les gouttelières. Bon, vous verrez ça dans le livre. À part la première année, il ne semble pas qu'il y ait de rapport direct et inéluctable entre l'âge du cerf et la forme du bois, qu'on n'explique toujours pas. Ça, c'est un mystère de la biologie. On constate seulement que l'évolution du bois ne saute pas d'étape. On ne passe pas par-dessus un grade. On ne devient pas dicore sans avoir été dicore jeûnement. Et si l'évolution du bois peut piétiner, elle ne revient pas en arrière. L'acquis est définitif. Donc c'est des choses importantes, parce que l'acquis du cerf symbolique, évidemment, va être définitif. Le cerf vieillissant, le dicor devient vieux cerf, puis grand vieux cerf. Et la repousse du bois peut être alors plus ou moins anarchique. Et c'est un peu comme le cancer chez nous. Le bois peut être bien semé quand il est symétrique ou mal semé. Enfin, à la suite d'un accident au moment de la repousse, ou bien si on le castre, l'orthodoxie du bois étant liée à l'hormone mâle, donc il y a vraiment quelque chose de très sexué. Un cerf peut devenir tête bizarde. Oui, quand ça ne va plus. Alors, il porte perruque, ce qui est un peu ridicule, et n'est plus capable que de produire des trognons informes. Oui. D'autre part, le cerf vit en harde, mais ce n'est pas toujours la même tout au long de l'année. Il y a des moments calmes et le moment du rut, évidemment très important, où on entend bramer, évidemment, les cerfs qui ont une espèce de lutte, évidemment, pour domination des femelles. Comme dans tous les animaux, les sociétés animales sont réglées en grande partie par une hiérarchie qui est une hiérarchie de reproduction. Les combats entre rivaux sont alors sévères et les bois s'entrechoquent avec fracas. Donc c'est avec grande puissance. Parce qu'un cerf, ça peut faire 250 kilos, hein, c'est... Le cerf est jalousement polygame et quitte à périr épuisé à la besogne, plus il a de biches, plus il porte haut. Alors ça, c'est pas trop à imiter, c'est un animal. Très vite, il ne sait plus où donner de la tête, et c'est le terme technique, et parce que justement, il doit combattre avec d'autres, tout autant occupé par ses biches que taraudé par la jalousie. C'est le moment à l'automne où il devient dangereux, car tout ce qui n'est pas biche est rival, aussi bien un autre cerf que l'innocent ramasseur de champignons. Tout ce qui bouge est un rival. Voilà. Alors, ça nous donne un petit aperçu de la richesse de cet animal, dans la symbolique, alors là, qui serait moyenâgeux. Et donc, on va être mis en présence de quelque chose qui a beaucoup d'étapes et qui est irréversible. Pour le biologiste, toujours, le cerf c'est vraiment un mystère à cause du miracle du bois. Ce que l'animal porte périodiquement sur la tête n'est pas une corne. Le corne, c'est une espèce de poil évolué. Le seul point commun avec la corne, justement, c'est le pivot. Émergence osseuse, bilatérale et symétrique sur l'os frontal. En quoi consiste ce miracle du bois? Et c'est bien ça qui va être le point d'appui de l'usage du cerf dans les Écritures. Miracle évident. Le petit bout de peau périoste que le cerf a sur la tête et le velours qui vont produire ce bois. Premièrement, il se souvient de ce qui s'est passé l'année précédente. Parce que les bois tombent et repoussent à l'étape d'après. C'est très étonnant. Sans repasser par les étapes antérieures. Comment il y a mémoire de cette croissance qu'on a perdue et qu'on reprend? C'est très étonnant. Deuxièmement, il se met à récapituler. C'est-à-dire, il renaît de la tête récapitulée, c'est la tête qui renaît. Troisièmement, il sait qu'il doit ajouter au bon moment et au bon endroit ce plus qui fait progresser le pauvre air jusqu'au rang de noble. Cet os qui n'est élaboré ni par apposition, ni par intussusception, comment l'appeler autrement que os par récapitulation adjonction. Et voyez que on comprend presque intuitivement que la vie spirituelle va être de ce type. Mais surtout, que se passe-t-il exactement? Pourquoi le cerf n'est-il pas directement un dicor? Que contient comme programmation ce tout petit bout de peau pour être ainsi rythmé par le temps, l'endroit et l'espace? Autant de questions auxquelles personne ne peut encore apporter de réponse au niveau biologique et qui sont posées comme autant de défis à la compréhension de l'horlogerie de la biologie moléculaire. On ne sait pas tout là-dessus. Mais c'est merveilleux parce que ça va nous permettre de comprendre mieux ce que les anciens ont perçu du cerf et pourquoi on donne cette image pour parler du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. Alors, nous sommes au sommet de la révélation et saint Jean utilisera beaucoup le Cantique des Cantiques dans l'Apocalypse, car semble-t-il, il l'a compris. Mais comprendre le Cantique des Cantiques, ce serait un miracle, justement, comme comprendre la biologie du bois du cerf. Ce texte est le texte le plus difficile que je connaisse. Et j'entends bien dans les Écritures ou ailleurs. Les mathématiques sont plus simples. Le Cantique des Cantiques, vous voyez, Shir HaShirim, ce n'est pas un cantique, évidemment. C'est autre chose. Comme le Saint des Saints, ce n'est pas le Saint. Ce n'est pas plus saint que le Saint. C'est autre chose. On dit que c'est un superlatif. Oui, au niveau grammatical. Mais dans la réalité, le Cantique des Cantiques est à tous les champs spirituels qui peuvent naître en nous ou nous être inspirés, ce que le Saint des Saints est à la structure du temple. Et le cerf, c'est celui qui habite le Cantique des Cantiques, puisque c'est un des noms, un des qualificatifs symboliques du bien-aimé. Qui est le bien-aimé? Toute la tradition hébraïque et la tradition chrétienne qui suit et qui l'imite dit que le Cantique des Cantiques est un dialogue entre Dieu et son peuple. Ce qui n'est pas évident du tout quand on lit le texte. Et d'ailleurs, les exégètes contemporains disent non, ça c'est de l'allégorie, c'est pas ça, c'est un chant d'amour entre un berger et une bergère, et puis ça a été utilisé dans la liturgie ensuite. Ça, c'est une explication rationaliste qui ne tient pas la route un seul instant, mais qui a encore cours. Le Cantique des Cantiques est justement si proche d'une description de l'amour jusque dans son côté érotique. Eros, agapé, comme on dit en grec. Que certains auraient bien voulu l'enlever du canon des Écritures. Au moment de la réforme du canon des Écritures au concile de Yavne. Et le Cantique des Cantiques a été sauvé par l'autorité du Rabbi Akiba. Parce que des gens, déjà, le lisaient d'une façon non sacrée. C'est-à-dire qu'on peut lire ce texte si on n'est pas initié au texte comme des chants, cinq chants d'amour qui sont beaux, poétiques, mais d'une certaine façon, la chose est banale. Rabbi Akiba a mis toute son autorité dans la balance pour que le monde hébraïque, le monde juif, conserve le Cantique des Cantiques dans le canon des Écritures. C'est juste après la naissance du christianisme. Et évidemment, le Cantique des Cantiques a été immédiatement adopté et conservé dans le canon des Écritures par les chrétiens. Pourquoi ? Parce que c'est une figure du Christ, du Messie. Et en tant que Verbe incarné. Parce que, du coup, on peut parler de Dieu comme d'un homme qui aime par analogie. Sinon, même les métaphores seraient si osées que ça serait insupportable. On ne peut pas parler de Dieu ainsi. L'invisible, le trois fois saint, comparé à Salomon ou comparé à un cerf, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, sauf si quelque chose dans l'homme est vraiment analogique au divin. Et cela ne se voit et ne se comprend. Là aussi, la clé des Écritures est dans le Nouveau Testament, dans le Christ ressuscité. Donc je ne peux pas entreprendre une interprétation du cantique, maintenant, mais regardons un peu ce que les anciens en ont dit. Eh bien, dans Origène, qui hérite directement de l'exégèse juive, il dit, bien, c'est justement le dialogue de l'âme qui va être représenté par la bien-aimée, et du Christ, donc du Messie, Christ est le Messie, qui est le Verbe incarné, qui est représenté par le bien-aimé. Et pour les anciens, le cerf est un tueur de serpents, en tant que le serpent est dangereux pour l'homme, donc en tant qu'il représente là les esprits mauvais. Et voici ce que dit Origène. Les deux animaux, donc le cerf et la gazelle, sont fréquemment cités dans les Écritures, et ce qui est encore plus admirable, ils sont souvent cités ensemble. C'est pas la même espèce pour toi. La gazelle n'est pas la biche. Voici ce dont tu mangeras, est-il dit. Car on peut manger du cerf et de la gazelle. Et l'on cite ensuite la gazelle et le cerf. Ces animaux sont en effet très apparentés et voisins. Ils sont dans la même grande classe. La gazelle a l'œil très perçant. C'est pas un oiseau, là. C'est pas dans les airs. Le cerf est un tueur de serpents. Peut-être mon sauveur, donc il désigne Jésus en tant que Messie, est-il une gazelle selon la théoria et un cerf selon la praxis. Et là on voit la dialectique théorie-pratique qui vient directement de la philosophie grecque et que Origène, deuxième siècle, va utiliser. Quelles sont ses œuvres donc dans la praxis? Il tue les serpents. Il étrangle les puissances ennemies. C'est pourquoi, je lui dirai, c'est toi qui as brisé les têtes des dragons dans les eaux, c'est toi qui as brisé les têtes du dragon. Il cite un psaume. Dans la théoria, qui est la vue de Dieu en Dieu, car on ne peut voir Dieu que si on est assimilé à Dieu. Le bien-aimé est comme une gazelle. Donc il faut aller voir la gazelle aussi. Mais dans la praxis, il devient comme le faon du cerf. Alors le faon, ça se dit Ofer. Et il y a un jeu de mots. Parce que Ofer, c'est Ein, Fe, Resh. Mais ça peut se vocaliser autrement. C'est Afar, qui est la poussière. Et Ofer, ça veut dire aussi le plomb. Alors on a à la fois quelque chose de très lourd, de très volatile, et de très gracieux, le faon. Donc on va réunir des choses qui apparaissent contradictoires. on va faire la conciliation des contraires, comme disait saint Nicolas de Cuse. Donc, on arrive au sommet de la dialectique. Comme l'animal, il va pouvoir devenir noble. Et comment on devient noble ? Par une praxis. Mais cette praxis est périodique. Elle est marquée par le rythme de l'année. Elle est temporelle. Cette praxis est la plongée dans le monde du changement dans lequel nous vivons. Comme le dit le biologiste, il faut que le pauvre air devienne noble. C'est son programme à lui. Mais on va montrer qu'il y a donc une essence à accomplir dans le bien-aimé. Et ça, évidemment, ça ne peut pas se dire de Dieu, mais de l'homme. Donc, si c'est divin, c'est forcément de la divinité incarnée dans l'homme. Ainsi, la créature, en tant qu'elle résume en elle toute la création, dans l'homme et dans la théorie, il doit être Dieu de Dieu et lumière née de la lumière, mais dans la praxis, il faut que cette créature use du temps pour sortir du temps. Et c'est tout la clé de la connaissance de la destinée humaine. Nous devons user des changements pour sortir du changement. Nous devons user des progressions pour changer, pour sortir de toute progression. Donc, pour sortir des 6 jours où l'on travaille pour accomplir notre essence, l'homme est autopoïète, c'est-à-dire il se construit lui-même, il n'est pas autocréateur, monsieur, mais il est créé pour se construire lui-même et sortir de sa construction par une transmutation qui va être justement sa résurrection et sa divinisation.
Jean-François Froger, on pourrait continuer avec d'autres animaux à découvrir l'identité de l'homme dans son programme d'alliance, découvrir la réalité du monde et sa signification pour ce qu'elle dit et de l'homme et de sa destinée et de sa vocation. Je vous remercie pour ce parcours. Je rappelle que ce livre est écrit avec vous, Jean-François Froger, et avec un zoologue, Jean-Pierre Durand, parce que vous avez voulu mettre ensemble et la quête de sens et la lecture de la réalité.
L'observation du réel, le travail humain qui est la praxis, est une donnée de contemplation qui relevait un petit peu de la praxis aussi, puisque l'étude des Écritures, c'est souvent comme l'âne et le bœuf. Et ensuite, évidemment, peut-être aussi comme une promenade d'un cerf dans la création.
Un cerf assoiffé de sens.
Assoiffé de sens et de fraîcheur, comme les psaumes le racontent aussi, bien sûr. Kéayal.
Jean-François Froger, merci.
Merci à vous.
Ainsi s'achève cette dernière page du livre des animaux de la Bible que nous avons feuilleté en votre compagnie, Raphaël Paquier. Je rappelle que toute la semaine, nous étions en compagnie de Jean-François Froger qui signait ce bestiaire de la Bible autour de la signification des animaux dans les Écritures saintes chrétiennes. Merci beaucoup Raphaël. Peut-être une dernière question avant de quitter cette série. Votre animal fétiche dans la Bible, c'est lequel ?
Alors dans la Bible, il y a celui que j'ai reçu par le mois de naissance, qui est le lion, un lion qui m'inquiète et que je trouve trop solitaire dans son désert. Celui que j'ai redécouvert grâce au livre de Jean-François Froger, c'est paradoxalement l'âne. L'âne, non pas parce que c'est l'animal fétiche du village de mes origines, mais l'âne parce que dans le fond, on le maltraite, on le sous-estime. Et à y regarder de près, c'est vraiment un animal fantastique qui m'inspire et qui peut nous inspirer.
D'accord, merci beaucoup pour cette série que vous nous avez offerte. Je rappelle que vous pouvez trouver les références du livre dont nous avons parlé aujourd'hui sur notre site internet. Je vous en donne tout de suite l'adresse www.religion-rsr.ch. Et puis il y a notre répondeur, bien sûr, qui prendra vos messages 021 318 60 70. La semaine prochaine, A Vue d'Esprit parle de tout à fait autre chose. Elle reste dans les images, mais cette fois-ci, la série que Jean-Christophe Emery va nous proposer est consacrée au statut de l'image dans les trois grands monothéismes. Une image permise, une image interdite en fonction des contextes religieux, juifs, chrétiens ou musulmans. Dans quelques secondes, il sera à 17h. Vous avez rendez-vous avec les informations et puis ce sera d'un air entendu.
Espace 2. Notre adresse internet, espace2.ch.